Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans Planche Casse-des-Bulles, où nous allons effectivement étudier la bande dessinée documentaire en nous intéressant à trois bandes dessinées. Une bande dessinée The Cure, consacrée en fait voilà, à ce groupe musical The Cure, qui est une découverte de Christol Seeck, à qui je laisserai lâchement, longuement la parole. Ensuite, une bande dessinée documentaire, qui est L'homme qui a vu l'homme, qui filme l'homme, qui tire plus vite que son ombre, qui est une espèce de bande dessinée, moitié documentaire, moitié humoristique de Bouzard sur le tournage de la série sur Lucky Luke, qui sera disponible sur Disney+ à la rentrée. Et enfin, une bande dessinée parue au Triomphe sur 150 ans de marine française, et plus exactement 150 ans de sous-marine française, pour le dire de cette manière-là, puisqu'il s'agit de l'histoire des sous-marins. Bonjour Christol.
Bonjour Richard.
Alors, donc tu m'as demandé si j'avais les cheveux coiffés en pétard quand j'étais jeune, comme le chanteur de The Cure. Eh bien, pas du tout, car déjà quand j'étais jeune, j'écoutais très peu de musique et je n'écoutais pas du tout The Cure. Peut-être l'ai-je écouté lors des soirées rallye, si tant est que les disques jockeys les passaient, mais j'étais bien incapable de repérer leur musique par rapport à celle des autres.
C'est à nouveau à l'occasion de s'intéresser à la bande dessinée documentaire. Les éditeurs, quand ils lisent des livres, ça peut être des romans ou des récits ou des livres d'histoire dans le cadre documentaire. À l'écran, nous pouvons voir des séries télé, des films et des documentaires. Et bien, dans la bande dessinée, on ne se contente pas d'évoquer des récits fictifs ou imaginaires. Nous avons aussi des documentaires sous différentes formes. J'en présenterai deux qui sont de formes très différentes, l'un sur le sous-marin et l'autre sur le groupe The Cure. Album particulier puisque cet album alterne des scènes dessinées retraçant le parcours de ce groupe très connu, avec aussi entre chaque scène quelques pages documentaires véritablement montrant des documents d'archives ou des petites explications croustillantes sur la vie de ce groupe. On peut peut-être commencer par un petit passage musical pour rappeler aux auditeurs le contenu, ce qu'a pu produire ce groupe.
Mais oui, et
voilà, eh bien, les éditeurs de Afjar ont entendu ce morceau à la musique, à la radio, pardon. C'est le titre le plus connu de The Cure, c'est l'un de leurs premiers titres. Et en fin de compte, l'album suit l'ordre chronologique. La première scène, dessinée de façon très réaliste par Jill Pascal, nous fait découvrir la naissance de ce groupe. Donc, il faut imaginer des gamins de 14 ans qui jouent du rock comme le faisaient beaucoup d'Anglais à l'époque. Nous sommes en 1973, dans la petite ville de Crowley, dans le Sussex, en Angleterre donc. Robert Smith joue de la guitare avec son frère, sa sœur et quelques amis, parmi lesquels Lowell Tollers et Malcolm Dempsey, qui resteront longuement avec lui dans le cadre de ce groupe devenu un des plus grands groupes du monde. Et ils jouent un petit concert dans le kiosque d'un parc, avec leur père qui filme avec une vidéocaméra de l'époque ce petit concert, pensant que ce film, que ce groupe ne passera pas le cap de l'adolescence. Et le groupe s'amuse à enregistrer une démo, ou ça dans la cuisine familiale. Et là finit la première scène et on découvre que Robert Smith adresse une cassette audio à tous les producteurs de musique d'Angleterre. Et il adresse notamment une cassette à Polydor, et on arrive directement dans la deuxième scène. Dans la deuxième scène dessinée par Antonio Milinarik, nous découvrons le producteur de Polydor qui s'appelait Chris Perry, qui désespérait de trouver, de dénicher un petit groupe anglais qui ferait son succès de producteur. Il est subjugué à l'écoute des quelques titres enregistrés par Robert Smith et sa bande, tellement subjugué qu'il décide de quitter Polydor pour créer sa propre firme, Fiction Records, et c'est à ce moment-là qu'il propose au groupe d'enregistrer pour de vrai en studio un premier titre qui fera couler beaucoup d'encre aux États-Unis. Ce titre s'appelle en Angleterre, pardon. Ce titre s'appelait Killing an Arab. On peut l'écouter. Robert Smith s'est inspiré du roman d'Albert Camus, L'étranger, pour imaginer les paroles de la chanson Killing an Arab. Et il faut savoir, il faut dire qu'à l'époque, en 1979, quand sort ce tube en Angleterre, le parti britannique, Front National Britannique, comme il s'appelait, s'est amusé parfois à reprendre ce titre-là. On peut imaginer qu'il était joué aussi dans des boîtes de nuit assez mouvementées, liées à certains hooligans dans des partis anglais, ce qui a fortement déplu à Robert Smith. Il a beau eu l'occasion plusieurs fois d'envoyer aux journalistes, aux éditeurs, aux radios, avec la cassette, avec le disque Killing an Arab, le roman de Camus, eh bien rien n'y faisait, on considérait que c'était un titre raciste. C'est pour ça que maintenant Robert Smith a changé les paroles du titre en concert. Le titre est toujours Killing an Arab, il chante Kissing an Arab. C'est peut-être l'occasion de parler de Robert Smith, qui était quelqu'un de cultivé et qui, sur plan politique, est un démocrate socialiste anglais qui haït une seule chose, ce sont les artistes qui font de la politique. Lui, il n'en fait jamais. Il a vraiment détesté que son titre soit considéré avoir une vision politique. Et après ce petit scandale-là, eh bien Robert Smith, avec son groupe, enregistre leur album en 1979, Boston Cry. Puis le succès vient petit à petit et ils enregistrent un deuxième album, 17 Seconds. Et c'est là que on découvre la psychologie de Robert Smith. Et c'est tout l'intérêt de cet album à travers le dessin. Chaque dessinateur a un style particulier, de nous faire comprendre que la psychologie de Robert Smith a grandement influé sa musique. La vraie psychologie musicale de ce groupe, c'est la mélancolie et parfois un aspect assez triste, voire morbide. Le titre qui évoque parfaitement cet état d'esprit mélancolique a été encore l'un de leurs tubes joués en concert. Il s'appelle Upper West, qu'on peut écouter.
Christol, c'est peut-être le moment d'avouer que toi, tu avais les cheveux coiffés comme ceux du chanteur de The Cure, peut-être.
Eh bien, mes parents ne m'auraient jamais autorisé, donc je n'ai pas pu, je n'ai pas pu avoir cet aspect visuel. Mais non, j'aimais beaucoup la musique, mais effectivement, je dois avouer que le style visuel du groupe m'a plutôt repoussé. Par contre, j'aimais beaucoup la musique, l'aspect mélancolique. Et ce sont les scènes suivantes, les chapitres suivants, qui nous plongent vraiment dans l'aspect triste, profondément triste du groupe The Cure, parce que les dessinateurs utilisent des couleurs noires, rouges, morbides, pour nous faire comprendre que le style musical était vraiment dépressif. Et cela dure de 81 à 83. Le groupe est également influencé par la mort, le suicide du chanteur du groupe, enfin de Ian Curtis, qui était le chanteur du groupe Joy Division. Ils sont très influencés par cela. Et donc, ils plongent dans la drogue et l'alcool, comme beaucoup de chanteurs et de rockers anglo-saxons, jusqu'à une certaine renaissance en 1985, en 1983, 84, 85, avec des titres plus joyeux, plus dansant. Ça annonce l'album en 1985 The Head on the Door et le titre phare In Between Days. Et vous allez voir tout de suite, on est dans une période beaucoup plus dansante et joyeuse, si on peut écouter ce titre-là. Voilà la période joyeuse de The Cure, qui est mise en évidence par un dessin plutôt chatoyant, ce qui tranche avec les dessinateurs précédents, un dessin aussi enfantin, et ça correspond à la grande période de The Cure en France notamment, avec un immense succès. Le groupe a autant de succès que U2, Simple Minds, Depeche Mode, les grands groupes de l'époque qui existent encore aujourd'hui. Et les deux scènes suivantes sont plus reposantes, puisque les deux scènes suivantes se déroulent en France. La première évoque un concert très connu de The Cure qui avait eu lieu dans le théâtre antique d'Orange en 1986. Et la deuxième scène décrit l'enregistrement de l'album suivant, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, en Provence. Et effectivement, on trouve qu'il y a une période plutôt de fatigue et de calme dans ce groupe, qui a atteint la perfection musicale de l'histoire de ce groupe-là. Et c'est à cette époque-là que ils ont sorti un autre tube qui était le générique d'une émission qui passait à la télé qui s'appelait Les Enfants du Rock. Ce tube était Just Like Heaven. Et les paroles de cette chanson nous font comprendre que Robert Smith est heureux. Dans le tube précédent, Upper West, Robert Smith raconte que dans sa jeunesse, enfant, il faisait des cauchemars, il rêvait qu'il était perdu dans une forêt, il n'arrivait pas à en sortir. Et maintenant, dans les paroles de Just Like Heaven, il raconte à son amoureuse qu'il aimait perdument et que quand il est avec elle, c'est comme s'il était au paradis. Just Like Heaven, donc, c'est la période heureuse de Robert Smith. C'est naturel. Cela fait très longtemps qu'il connaît son ami Mary, et en 1988, il demande Mary en mariage. Et donc, effectivement, la scène suivante nous décrit de l'intérieur, avec une grande intimité, le mariage privé de Robert Smith. Et ce n'est pas si gai que cela, puisque son ami et artiste du groupe, jaloux de ne pas être invité pour être jaloux de ne pas être le témoin du mariage, commence à boire. Il devient insupportable et il sera éjecté du groupe peu de temps après. Mais Robert Smith, lui, oublie cela puisqu'il est marié avec son amour, Mary. Ça fait depuis l'âge de 14 ans qu'ils sont ensemble. Il lui compose une chanson d'amour qui sera effectivement l'un des tubes aux États-Unis. C'est le titre Love Song. Donc nous sommes rendus à la moitié de l'album. Je n'exposerai pas la suite parce que c'est la période moins intéressante du groupe The Cure. Le scénario est de Jeremy Will, qui donc se focalise chronologiquement sur les moments les plus importants de ce groupe. Et ce qu'on peut noter, c'est que c'est assez créatif comme idée d'album, puisqu'on peut lire, regarder les planches, lire les petits récits qu'il y a entre chaque planche et écouter la musique comme on l'a fait, comme on le fait tous, avec notre téléphone, avec YouTube, Deezer, tout ce que vous voulez, ce qui est un moment très agréable et assez créatif à mes yeux. Donc cet album est édité aux éditions Petit à Petit pour le prix de 21,90 €. Il y a d'autres groupes qui également ont été transcrits dans ce label-là, sur YouTube, Bruce Springsteen, mais de loin, le meilleur album de la série, c'est celui consacré à The Cure.
Eh bien, merci beaucoup, Christol, pour cette évocation qu'on sent, comment dire, traversée par une véritable tendresse pour tes jeunes années. de The Cure, donc un groupe qui existe toujours, si je ne m'abuse. Et il est temps de rappeler aux auditeurs de Radio Courtoisie que si vous pouvez nous écouter, ressasser nos souvenirs d'enfance en fonction d'une actualité de la bande dessinée documentaire, on a souligné un peu en creux que cet album était aussi intéressant parce qu'il y a plusieurs dessinateurs et donc chacun s'occupe d'une tranche de vie imaginée par le même scénariste et dialoguiste d'un bout à l'autre. Et bien, pour nous aider à faire tout ça, le meilleur moyen, c'est de nous soutenir, soutenir.rc.fr, puisque, vous le savez, Radio Courtoisie ne vit que de ses dons, et ce sont ces dons-là qui nous permettent de produire cette émission, mais aussi toutes les autres, qui d'ailleurs nous valent de jolis succès d'audience sur Paris et partout où nous sommes évidemment diffusés. Mais enfin voilà, vous êtes à 1 million à nous écouter chaque semaine. C'est plutôt assez agréable de savoir que d'une certaine manière, vous investissez très bien votre argent si vous nous soutenez. On va passer à tout à fait autre chose, comme on disait dans les sketchs des Monty Python, qui est une bande dessinée de Bouzard, l'homme qui a vu l'homme, qui filme l'homme, qui tire plus vite que son ombre, presque journal d'un tournage. Donc Bouzard est un spécialiste en quelque sorte de la bande dessinée documentaire, mais aussi de la bande dessinée comique. Et il a là réalisé une espèce de journal de tournage, de making-of, comme on ne devrait pas dire sur Radio Courtoisie, de journal de tournage, donc d'une série qui est adaptée et qui a été adaptée en fait de Lucky Luke. Lucky Luke qui fêtera en 2026, donc ses 80 ans. Dargaud a évidemment prévu 1000 choses et notamment ce partenariat avec Disney+ pour cette série. Bouzard raconte ça sur un ton évidemment, plein de distance et d'amusement, avec un trait qui n'est pas forcément aimable. C'est d'abord un caricaturiste, il vise une simplification maximale du trait, donc ça lui permet évidemment d'avoir des visages plus ou moins réussis. Quand on sent qu'il tend vers le réalisme, eh bien, donc ces personnages sont sans doute identifiables pour ceux qui les connaissent, et sinon, évidemment, lui-même se réserve un rôle ingrat de petit bonhomme gras au gros nez. On voit d'ailleurs au passage que Bouzard, comme beaucoup d'autres dessinateurs dont le trait paraît être simplissime ou enfantin ou peu abouti, est en fait, comme Bretéché, comme Riyad Satouf et comme tant d'autres, un vrai technicien, et que s'il a envie en fait de le dessiner entre guillemets beaucoup mieux, avec plein de détails et de nous faire penser aux peintres du 19e siècle, il en serait parfaitement capable, mais voilà, il fait exprès de choisir un autre vocabulaire. Alors, pourquoi parler de cette bande dessinée documentaire-là? C'est parce que j'ai un avis mitigé. D'une part, c'est amusant de voir comment on peut faire semblant de jouer le jeu du reportage en imaginant une histoire parallèle qui sont les mésaventures de Bouzard, qui aimerait bien être Lucky Luke, qui aimerait bien être caméraman, qui aimerait bien être acteur, qui aimerait bien être scénariste, en fait, qui, en tant que dessinateur de bande dessinée, est à la fois son propre scénariste, son propre cadreur, son propre caméraman dans le choix des plans qu'il décide et du rythme qu'il impose à sa narration, mais qui, évidemment, reste du côté de la planche dessinée, d'un univers en 2 dimensions par rapport à ceux qui, avec des équipes techniques énormes, réussissent à filmer une série complète en Espagne. Il y a une certaine ironie, c'est assez bienvenu. Je ne sais pas si les amateurs de récits de tournage vont véritablement avoir leur plein d'anecdotes, parce que le parti pris de Bouzard est de nous faire comprendre plutôt chaque métier. À quoi sert un producteur, à quoi sert un scénariste, à quoi sert un dialoguiste, comment ils interviennent, comment, en fonction des aléas climatiques et des difficultés du tournage, on décide de réécrire telle ou telle scène ou de supprimer telle ou telle autre. Donc, on n'est pas du tout dans, par exemple, les guerres de Lucas qui racontaient de manière épique le tournage de Star Wars, l'épisode 1, et de Star Wars, l'épisode 2, puisque c'est une bande dessinée qui a déjà connu 2 tomes. On n'est pas non plus dans la manière dont Amazing Amazian avait raconté les tournages de Spielberg ou Coppola. C'est voilà, un Français qui s'amuse avec un médium qui n'est pas le sien. Il a été accueilli et il se met en scène et en parallèle, il met en scène la manière dont Il y a, si j'ose dire, une espèce de second journal de tournage qui est la manière dont ces planches envoyées au fur et à mesure à l'éditeur sont reçues par l'équipe de Dargaud qui se demande vraiment à quoi va ressembler l'épisode final. Donc voilà, il y a une espèce de petite mise en abîme. C'est un album qui est plaisant et je le conseille d'abord comme introduction à la série dont on reparlera peut-être sur Radio Courtoisie. Et de toute façon, je le conseille pour mesurer l'impact que Lucky Luke a pu avoir sur des générations et des générations de dessinateurs. Voilà, effectivement, Lucky Luke a vu le jour en 1946. Et voilà, c'était l'époque où Morris avait commencé avec un trait beaucoup plus rond que celui qu'il a adopté en cours de route. Morris, qui était l'élève de Jigé et qui d'ailleurs, avec Jigé et Franquin, ira faire un tour aux États-Unis, à un moment donné où Jigé avait peur que les Russes n'envahissent l'Europe, mais disons que ses craintes à l'époque paraissaient plus solides que celles qu'on pourrait nourrir aujourd'hui. Et Olivier Schwartz en avait tiré un album sur les Amigos, qui était un très joli album qui rendait hommage à Jigé et à ses compagnons. Voilà, L'homme qui a vu l'homme, qui filme l'homme, qui tire plus vite que son ombre, est une bande dessinée documentaire voilà, qui documente à la fois le travail de la bande dessinée et le travail du cinéaste. On va passer à une dernière bande dessinée qui est celle choisie aussi par Christol et que j'ai lue et dont je ne me rappelle pas avoir parlé, qui sont ce documentaire sur 150 ans d'histoire de sous-marins en France depuis le tout premier sous-marin inventé jusqu'aux instruments actuels de notre dissuasion nucléaire.
Effectivement, j'ai vérifié avant de la proposer. On n'en avait pas encore parlé de cette bande dessinée-là, même si elle est sortie il y a, doit y avoir 6 mois aux éditions du Triomphe. Et je dois avouer que cette bande dessinée qu'on va appeler documentaire est une vraie réussite. C'est pas vraiment une BD documentaire puisqu'il y a un héros dans cette bande dessinée, un héros fictif. C'est un trait d'humour du scénariste. Jules Verne intervient du début à la fin. Pourquoi Jules Verne? Eh bien, Jules Verne, ce romancier nantais, c'est l'inventeur du Capitaine Nemo et du fameux Nautilus, le sous-marin le plus connu dans le monde littéraire. Et l'idée est de rendre cette BD documentaire plaisante en voyant devant nous Jules Verne nous présenter, il intervient à peu près toutes les deux, trois planches pour nous présenter l'un des récits, l'une de ses aventures des sous-marins. Et donc, qui a eu l'idée de cette bande dessinée? Eh bien, il faut savoir, Richard, que nous avons beaucoup d'adeptes de la bande dessinée qui ont des métiers très différents. Et nous avons même un commandant de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins au fin fond des océans qui est passionné de bande dessinée historique. Il en a des milliers chez lui. Il essaie de collectionner toutes les BD historiques qui ont pu sortir. Il est également passionné d'histoire militaire et c'est lui qui a proposé aux éditions du Triomphe, de réaliser une bande dessinée sur l'histoire des sous-marins. Donc il s'agit du capitaine de vaisseau Vincent Vaquet, qui également, à la fin de cet album, se laisse interviewer pour répondre concrètement aux questions que tout le monde se pose sur la vie des sous-mariniers. Et il a fait appel à un scénariste, ce n'est pas lui qui a fait le scénariste, il a fait appel à un scénariste, le scénario est de Patrick Deschamps. Patrick Deschamps, je l'avais rencontré lors d'un festival de bande dessinée, c'est quelqu'un qui est de tradition française, j'en dirai pas plus, si ce n'est qu'au début, il était conseiller historique pour réaliser des films au cinéma et à la télévision, notamment chez Pathé. Il a dû conseiller la création de 800 films. Et puis, depuis une vingtaine d'années, depuis qu'il est en retraite, il bâtit des scénarios de bande dessinée aux éditions du Triomphe. On se souvient notamment de Geneviève de Galard, qu'on avait présenté dans ton émission. Mais auparavant, elle avait déjà fait les scénarios des Fantômes de Catine ou encore Avec les moines de Tibérine. Donc lui, il a dû se plonger dans le monde des sous-marins en lisant des ouvrages très précis sur la vie des sous-mariniers, des sous-marins, en se focalisant sur les sous-marins français. Et donc ce livre fourmille d'anecdotes passionnantes, notamment l'histoire des sous-marins depuis leur création par l'Amirauté française, par la Royale, pardon, qu'est-ce que je raconte, en 1859, les premiers essais, et en 1913, c'est le premier sous-marin qui est conçu comme arme de guerre par l'armée française. On découvre que la vie à l'époque intérieure n'était pas très plaisante. Les
Excuse-moi,
planches.
je t'interromps
On
car
peut.
il nous reste à peine 20 secondes.
À peine 20
Voilà,
secondes.
donc
Les
c'est un
planches sont de
vrai,
Jean-Marie Cuzin, et donc
c'est un
c'est aux
vrai
éditions du Triomphe.
documentaire. Voilà, aux éditions du Triomphe, c'est un vrai documentaire avec
Exactement.
des éclatés, des renseignements techniques, des biographies de marins célèbres. Donc on est vraiment emporté. Il y a quelques planches qui sont magnifiques, avec de grandes planches marines, avec notamment les tout derniers sous-marins. Et c'est à la fois un livre instructif et un livre plaisant. Donc merci beaucoup de nous avoir écoutés sur ces bandes dessinées documentaires. Et Christelle et moi, nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre épisode de Planches Casse-Zébulle.